Chantal Emeaude, bonjour.
Bonjour.
Maire d'Embrun, présidente de la communauté de communes de Serre-Ponçon, vice-présidente de la région Sud, plus précisément deuxième vice-présidente en charge du plan montagne et des affaires européennes. Tout d'abord, une question qui touche à l'actualité, celle des JO, puisque vous faites aussi partie de la commission sport préparation des Jeux Olympiques 2024. Edgar Gros-Piron, ancien champion olympique de ski de bosse pour les JO d'Albertville, qui prendra la direction certainement du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est un bon choix ou vous auriez préféré peut-être que ce soit un nom du Sud qui s'affiche?
C'est un très bon choix. Je connais bien Edgar Gros-Piron qui a marqué son époque au niveau du ski bosse. C'est un garçon très impliqué. Et je pense que c'est un choix judicieux qui connaît parfaitement le monde de la montagne, le monde du ski en particulier. C'est un très bon choix et je serai bien sûr mardi à Lyon pour la présentation d'Edgar.
La mise en place notamment du COJO. Par rapport à ces Jeux Olympiques 2030, il y a certaines inquiétudes toujours qui reviennent en disant le modèle du tout ski, c'est fini, il faut passer à autre chose. Pour autant, il y a aussi l'écho des élus locaux qui disent mais oui, c'est important parce que ce sera un levier pour le territoire, un levier pour des projets, pour du désenclavement routier ou ferroviaire. Et puis, il y a le collectif de l'étoile ferroviaire de Vennes qui dit ça y est, ça commence, 151 millions d'euros qui sont mis sur l'étoile ferroviaire de Vennes. Mais est-ce que ça suffit, notamment pour certains points de tension, points noirs, du côté d'Embrun, notamment? Est-ce que ça suffit?
Alors, je pense que donc le sujet doit être abordé de façon globale. Il est évident que la manne financière que le département des Hautes-Alpes et les Alpes du Sud vont récupérer à l'occasion des JO, des JOP 2030, est une opportunité exceptionnelle. Si on rate le train, on ne pourra plus jamais rattraper cet argent-là. Donc il faut absolument qu'on arrive à se mobiliser de façon coordonnée là-dessus. Il faut que les acteurs soient embarqués dans cette opération, y compris les acteurs du train. Et j'étais pas plus tard qu'il y a quelques jours pour fêter à Vennes les 150 ans de l'arrivée du train. Et effectivement, les cheminots aujourd'hui ont bien compris au niveau de l'étoile de Vennes que les Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 étaient cette opportunité pour mobiliser de l'argent. Alors, 151 millions d'euros, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, ça ne suffira pas. Et on est en train aujourd'hui de travailler sur une enveloppe enveloppe groupée avec l'État, bien évidemment, la région et d'autres collectivités à hauteur de 400 millions d'euros pour que, d'une part, la durée de transport entre Marseille et Briançon soit réduite d'une façon très significative, donc au moins une heure de réduction, voire un peu plus, que les possibilités de double voie qu'il y a encore entre, et je l'ai vu parce que j'ai fait le trajet en train, j'étais dans la cabine avec le préfet il y a une dizaine de jours pour faire le trajet entre Gap et Briançon, et c'est là que j'ai pu constater qu'il y avait d'anciennes double voies qui avaient été supprimées et qui pourraient être remises en route de façon à ce qu'on puisse imaginer un croisement des trains et faciliter les allées-venues, notamment entre Chorges et Embrun. Donc là, il y a un point noir à ce niveau-là, donc il va falloir le réduire. Mais oui, bien sûr, c'est une opportunité formidable, pas seulement pour le train. Pour le train, c'est une évidence, mais également pour la route, pour la réduction des points noirs et d'une façon générale, pour aider aussi la montagne à s'engager dans une politique de transition, même si, et je le redis, le ski n'est pas foutu. Les études le montrent, la neige continuera d'être là, même si c'est à des altitudes un peu plus élevées. On s'aperçoit et on le voit pendant les vacances scolaires, et notamment en ce moment, en pleine vacances de février, les Alpes du Sud et notamment les stations des Hautes-Alpes sont énormément fréquentées. Ça participe aussi à la vitalité du territoire, à la création d'emplois, à la vie dans la montagne, à son renouvellement. On ne peut pas mettre une croix sur cette activité, mais il faut continuer à travailler sur une évolution de la montagne. Et les Jeux Olympiques seront aussi l'occasion de pouvoir travailler sur une montagne en transition, tout en conservant l'activité ski.
Une actualité plus locale, c'est il y a quelques semaines ce préavis de grève du SMICTOM pour les chauffeurs de la régie qui avait été déposé par la CFDT. Vous étiez dit étonné de cette démarche parce qu'il n'y a eu aucun rendez-vous qui n'avait été demandé. Vous en avez fixé un. Depuis, les choses se sont-elles arrangées du côté du SMICTOM ?
Oui, tout à fait. Alors, les choses, bien sûr, se sont arrangées parce que seule l'échange peut permettre de se comprendre et de s'entendre. Moi, j'avais été très surprise pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'organise régulièrement des comités sociaux territoriaux, les CST, qui sont obligatoires pour des collectivités de plus de 50 salariés, ce qui est le cas de la Comcom de Serre-Ponçon, où on fait le point avec les agents sur les difficultés, les attentes, etc., etc. J'en ai entre 3 et 5 par an, et il nous a jamais été rien remonté, y compris par les représentants du personnel qui n'étaient au courant de rien du tout. Donc je pense que c'est parti d'une ou deux personnes qui ont peut-être souhaité faire un petit coup, si je puis dire. Peu importe. En tout cas, moi j'ai souhaité réunir tout le monde. Les échanges se sont très bien passés. Tout a été réglé, bien évidemment.
Un autre chantier qui vous concerne du côté d'Embrun, un chantier d'envergure, puisqu'on va parler du nouvel hôpital. Ça y est, on va démarrer les réunions publiques. Alors ce nouvel hôpital, on va rappeler quand même qu'au départ, il était ambitionné d'en faire un nouveau. Au final, ce sera une rénovation en profondeur du bâtiment existant qui en a bien besoin. Certains bâtiments ont deux siècles aujourd'hui. C'est un chantier d'envergure parce que comment ça va se passer pour les patients quand il y aura ce chantier ?
Alors c'était toute la difficulté. Initialement, il avait été envisagé peut-être de construire un nouvel hôpital toujours sur la commune d'Embrun, mais les terrains n'ont pas été trouvés et finalement, on s'est aperçu qu'une réhabilitation in situ pour refaire un nouvel hôpital était aussi une solution intéressante parce que l'hôpital restait dans le centre-ville et à proximité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le fait d'aller vers une réhabilitation complète va générer un certain nombre de difficultés pour les patients qui sont à demeure et pour lesquels il va falloir poursuivre les soins. On est en train d'y travailler de façon à pouvoir démarrer les travaux. C'est toute la difficulté, mais on va y arriver. Démarrer les travaux par l'aile qui contient peu de patients et les quelques patients qui sont seront transférés dans une aile voisine de façon à ce qu'on puisse travailler par tranche. Une fois que la première tranche sera organisée, on va progresser de cette façon-là. Mais c'est une organisation très structurée, un travail de tous les instants avec les hospitaliers, avec les architectes, les équipes techniques, de façon à ce que la réhabilitation se fasse dans de bonnes conditions et ne soit pas, au niveau du bruit, une gêne trop importante pour les patients, parce que ce sont quand même des travaux qui vont durer entre 2 et 3 ans.
Oui, parce qu'il devrait commencer en fin d'année ou début d'année prochaine pour se terminer pour une livraison en 2029.
C'est ça. Donc, j'organise avec la directrice du groupement hospitalier de territoire, Madame Ruder, une réunion publique le 27 février prochain à 18h à la salle des fêtes avec les architectes qui ont gagné le concours, de façon à ce que on puisse présenter le projet à la population locale et répondre à toutes leurs questions, parce que il y a bien sûr la construction du nouvel hôpital, mais il y a également aussi un enjeu de requalification urbaine, de stationnement aussi, parce qu'on est dans un secteur qui est très contraint, avec des places de stationnement qui nous font défaut dans ce secteur-là. Mmh. On y travaille également de façon à ce que ce soit une opération qui soit bien sûr réussie en termes d'architecture et d'organisation de la santé, de prise en charge de la santé. Mais on conserve nos urgences 24/24, 7 jours sur 7. On conserve notre radiologie, on conserve l'ensemble de nos places et on va même pouvoir en créer davantage.
Mais combien davantage, vous savez ?
Alors, je veux pas me prononcer sur le chiffre. Donc on est en train de travailler, mais un chiffre qui sera quand même significatif. Et puis également la rénovation urbaine de ce secteur, puisque ce secteur doit être embelli, amélioré, à la fois pour la population locale, mais également pour les automobilistes.
Un projet de 25 millions d'euros, en tout cas pour ce nouvel hôpital. Autre chantier d'envergure, ce sont des travaux qui ont commencé en octobre 2023, les travaux du pôle culturel, c'est-à-dire au sein de l'ancienne archevêché, des travaux que vous partagez d'ailleurs énormément sur les réseaux sociaux pour que la population suive ce chantier. On est toujours sur une livraison pour automne prochain ?
Tout à fait. Le chantier avance à belle allure. On n'a pas de retard particulier. On devrait pouvoir intégrer les nouveaux locaux d'ici la fin de l'année 2025. Un bâtiment qui est réhabilité, moyennant un coût total de 12 millions d'euros. C'est pas une petite somme non plus, mais financé à 90% par des financements extérieurs à la ville d'Embrun. C'est un bâtiment qui va faire honneur au territoire, parce que c'est un bâtiment très ancien, et mon objectif a toujours été, avec l'équipe municipale, a toujours été de réhabiliter le patrimoine, mais de le mettre à la disposition de la population locale, des Embrunaises et des Embrunais. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils habitent ce patrimoine ancien, de donner vie à ce patrimoine ancien. Ce sera le cas avec l'archevêché. Ça va être un bâtiment absolument magnifique, ouvert à tous, pour toutes les générations, avec de belles surprises en termes d'organisation, en termes de lumière, en termes d'architecture, mais également de belles surprises en termes d'activités liées à la lecture, à la médiation, donc un effort particulier porté auprès des adolescents.
Voilà, le pôle culturel qui accueillera notamment la médiathèque, nouvelle médiathèque, ou encore l'école de musique. Vous parliez de réhabilitation, des travaux, il y en a aussi du côté du secteur du haut de ville. Là, c'est pour donner un peu plus d'oxygène, que ce soit aux piétons, mais aussi à la circulation.
Tout à fait. Alors, le haut de ville qui comporte deux grandes phases. On a finalement démarré par la deuxième phase, qui est la requalification de l'avenue Charles de Gaulle, qui était en très mauvais état. Cette avenue, qui était l'ancienne route nationale d'ailleurs, qui est communale aujourd'hui depuis la déviation, va voir la largeur des pistes roulantes réduites, avec l'élargissement des trottoirs, la création d'une piste cyclable également, de façon à privilégier les espaces piétons, les cyclistes également, sécurisés au maximum, et rapprocher encore davantage le secteur de Pontfrache et de Saint-Surnin du centre-ville d'Embrun, avec donc là aussi une forte végétalisation, puisque la ville d'Embrun est très tournée vers la nature en ville, de façon à ce qu'on puisse apporter plus d'oxygénation, plus de fraîcheur, notamment l'été fait de plus en plus chaud, et on intègre aussi la problématique de la transition climatique.
Mais Chantal Emeaud, entre les travaux du pôle culturel, les travaux de réhabilitation, est-ce qu'Embrun a les reins assez solides pour mener tous ces chantiers ? À combien s'élèvent aujourd'hui les subventions, les soutiens financiers ?
Alors, on a effectivement de gros travaux qui coûtent cher, mais je suis une chasseuse de subventions, de façon à économiser au maximum le porte-monnaie des Embrunaises et des Embrunais. Globalement, tous nos investissements sont financés à hauteur de 80% de financement extérieur.
Ce qui permet de ne pas augmenter les impôts ?
Absolument. Ça permet d'une part de ne pas toucher à la fiscalité locale, et puis de limiter aussi l'emprunt, puisqu'aujourd'hui la ville d'Embrun est sur une logique de remboursement de sa dette totale en moins de 2 ans. On sait que la barre fatidique pour les communes, c'est 12 ans. On est à moins de 2 ans aujourd'hui, donc on a aussi de la marge, on a les reins solides. On a une situation financière extrêmement saine, malgré les très nombreux travaux que nous engageons.
Merci beaucoup Chantal Emeaud d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1.